Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour à tous et à tous.
En ce mois de décembre, Didier, et à l'approche de Noël, et parler du christianisme en Extrême-Orient est cohérent, je trouve. Ah,
plutôt, oui, bien sûr.
D'autant plus que nous avons découvert qu'un Sartois, né il y a 210 ans à Château-du-Loir, était évêque de Séoul.
Alors là, j'avoue que j'étais surpris.
Ben moi aussi.
Quand même.
On en découvre tous les jours, Asialogie. On espère partager ça avec un maximum de monde. Alors, ce gars de Château-du-Loir, il est devenu ensuite martyr. Il s'appelle Saint-Siméon François Berneux. Ça, c'est un nom bien sartois,
je
trouve.
Ah là, c'est clair que ce n'est pas coréen.
Alors voilà, ben on va vous raconter comment c'est arrivé. Et puis Didier, ben toi, tu vas nous étonner aussi avec les traditions des cadeaux. Des cadeaux en général, mais aussi les cadeaux de Noël en Chine, en Corée et au Japon.
Voilà, ça aussi c'est d'époque. Donc du coup, avant les cadeaux de Noël qui vont nous étonner, vous verrez ça plus tard, un peu d'histoire justement sur l'arrivée du christianisme en Extrême-Orient, s'il te plaît Corinne.
Alors l'arrivée du christianisme en Asie est une très longue histoire, Didier, tu t'en doutes.
J'imagine.
Et qui a bien sûr transformé et influencé au fil des siècles la culture et la politique. Alors, il a pris racine au 1er siècle, c'est très vieux, peu après la mort de Jésus, d'abord en Inde, au Kerala, avec l'apôtre Thomas, et les premiers missionnaires y ont fondé une communauté appelée les chrétiens de Saint Thomas, et cette communauté existe encore aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Les chrétiens de Saint Thomas, sont une communauté qui est bien vivante et qui est pratiquante.
Ah, j'avoue que je ne suis pas très au fait.
Okay. Alors, un peu plus tard, au 7e siècle, avec les apôtres Thaddée et Barthélemy, c'est en Mésopotamie, actuel Irak et Iran, qu'est née l'Église d'Orient. Alors ça, on en parle un peu plus quand même, qui existe bien sûr toujours. Et ces premiers chrétiens orientaux ont fondé l'église nestorienne. Et c'est cette église qui a progressé d'abord en Asie centrale, puis en Mongolie et en Chine.
Ah d'accord, très bien. Bon alors, du coup, Corinne, à quelle époque on peut parler d'expansion et d'interaction culturelle?
Alors entre le 5e et le 7e siècle, le christianisme a peu progressé à cause de la présence de l'islam au Proche-Orient. C'était les débuts de l'islam et aussi en Asie centrale. Mais des communautés chrétiennes ont continué à vivre sous domination musulmane en Perse, en Irak et en Syrie. Et ça, on l'a un petit peu oublié. Et c'est à partir du 13e siècle, avec l'expansion de l'Empire mongol, et nous y revoilà, avec Genghis Khan,
bien sûr,
Genghis Khan, qu'il y a eu une nouvelle vague d'expansion du christianisme en Asie. En effet, plusieurs membres de l'élite mongole, influencés par l'Église d'Orient, s'étaient convertis au christianisme.
Ah tiens.
Et c'est ce qui a créé une période de tolérance religieuse. Ben, on s'en souvient, à l'époque de Genghis Khan, c'était une époque de tolérance religieuse.
Je ne pensais pas que ça allait jusque-là.
Voilà. Et on arrive alors à une période plus moderne, je dirais, parce que Genghis Khan, on sait bien que ce n'était pas si vieux que ça. Et là, on arrive au 16e siècle et au 19e siècle, c'est l'âge d'or des voyages maritimes et l'arrivée en grand nombre de missionnaires catholiques en Chine, au Japon et aux Philippines.
Très bien, mais alors, que peut-on dire du coup du christianisme en Chine et au Japon?
Alors, le christianisme est entré en Chine donc entre le 7e et le 9e siècle. On a retrouvé à Xi'an, c'est dans le nord de la Chine, c'est la ville des guerriers de terre cuite. Huangdi, l'empereur jaune.
Oui.
Et on a trouvé des documents qui sont datés de 781 qui attestaient de la présence des chrétiens. Et cette communauté s'appelait l'enseignement lumineux. Mais elle a été persécutée. Alors à l'arrivée des missions catholiques à partir du XIIIe siècle, le christianisme va refaire surface donc avec les Mongols, puis avec les chrétiens d'Europe. Et Marco Polo mentionnait déjà des communautés chrétiennes en Chine à cette époque. Voilà, alors c'est lors de l'arrivée des jésuites, notamment de Matteo Ricci, en 1583, que le catholicisme s'implanta grâce à une approche, ça s'appelle l'inculturation, c'est un concept très important, c'est s'approprier la culture en fait, avec l'apprentissage du chinois, l'adaptation des concepts chrétiens aux valeurs confucianistes et aux traditions chinoises.
Okay, on s'adapte.
C'est pas de l'appropriation intellectuelle véritablement, mais c'est un procédé de connaître au moins la culture de l'autre.
D'accord.
Alors ça va attirer des lettrés. Des lettrés chinois, mais aussi des lettrés coréens, on va y revenir,
d'accord.
Et aussi des membres de la cour impériale chinoise. Mais les conflits entre missionnaires vont susciter de la méfiance. Et à l'arrivée de la dynastie Qing, en 1724, le christianisme sera interdit et les chrétiens persécutés et poussés à la clandestinité. Et plus tard, avec Mao, ils seront très contrôlés.
Ouais.
Donc, en résumé, aujourd'hui, on compte environ 100 000 chrétiens en Chine et les églises clandestines existent toujours. Mais selon les analyses, le christianisme aurait de beaux jours devant lui car il attire beaucoup de jeunes.
D'accord.
Oui, donc en Chine, il y a des églises, on va dire, officielles et des églises clandestines qui sont très surveillées.
Ah, très bien.
Mais bon, le christianisme aurait de beaux jours devant lui. Alors, c'est ce que j'ai lu.
Oui.
Nous le verrons. Alors, pour ce qui concerne le Japon, c'est au XVIe siècle, par les jésuites portugais, que le christianisme va être introduit, et parmi eux il y avait le célèbre saint François Xavier. Alors il est arrivé lui en 1549 et il fut l'un des premiers missionnaires à prêcher le christianisme aux japonais en développant une stratégie aussi d'inculturation, donc d'adaptation culturelle.
Ouais.
Mais l'accueil a été mitigé. On en parlera dans une autre émission.
D'accord.
Bon, je propose qu'on fasse une pause, Didier.
Oui.
Alors ça s'appelle Miracle en décembre et c'est EXO, un groupe de K-pop très célèbre.
D'accord. C'est Noël, quoi.
Au monde même.
Voilà.
Oui, c'est un peu Noël quand
même. C'est ça.
Poïsie à nous, 널 찾으려고 했었다. 들리지 않는 널 들으려 했었다. 보이지 않던 게 보이고 들리지 않던 게 들려 너 나를 떠난 뒤로 내겐 없던 힘이 생겼어 늘 나밖에 몰랐었던 이 기적인 내가 이제 네 맘도 몰라줬던 무심한 내가 이렇게도 달라졌다는 게 나조차 믿기지 않아 네 사랑은 이렇게 계속 날 움직여 난 생각만 하면 세상은 너로 채울 수 있어 넌 송이 하나가 네 눈물 한 방울이니까
Alors voilà Corinne, un petit avant-goût de Noël,
oui,
ça nous met dans l'ambiance. Alors, pour reprendre, comment s'est passée l'arrivée du christianisme en Corée finalement ?
Oui, parce que je vais m'attarder surtout là-dessus.
Okay.
Alors c'est une histoire impressionnante à cause de la croissance du christianisme là-bas et de son influence. Alors c'est donc au XVIIIe siècle que les lettrés coréens, ayant fait des études en Chine, après ça, ils ont pu l'introduire en Corée. Ils avaient lu les écrits des jésuites.
Ah d'accord.
Alors c'est en 1784 que le lettré coréen Yi Seung-hoon a été baptisé à Pékin. Donc c'est le premier baptisé.
Oui. Hein,
et c'est
bien.
Lui qui va ramener la foi catholique
en Corée.
Alors ce qui est très intéressant, contrairement aux autres pays asiatiques, le catholicisme en Corée s'est d'abord répandu sans la présence de prêtres.
Ah oui.
Mais par une petite communauté
catholique, de façon autonome,
et clandestine au départ, avec des laïcs, en fait, des lettrés qui n'étaient pas des prêtres du tout,
des
laïcs.
Qui avaient la foi, qui étaient convaincus et qui l'ont exporté.
Qui ont été sensibilisés par les écrits humanistes dans un pays très confucianiste. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, c'est l'expansion de la foi qui va susciter la méfiance de la dynastie Joseon, très conservatrice, très confucianiste. Je vous rappelle, c'est la dynastie qui a régné de 1392 à 1897, qui voyait le catholicisme comme une menace pour l'ordre confucéen, contre le culte des ancêtres, contre l'autorité de la famille et de la famille royale particulièrement. Alors les vagues de persécution contre les catholiques ont commencé à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle avec des milliers de martyrs.
Ah oui.
dont en 1846, André Kim, le premier prêtre coréen.
D'accord, ça a été jusque-là.
Ah oui, et puis ça a continué. En 1866, il y a une loi qui a ordonné la persécution systématique des catholiques.
Bon, au moins c'est clair.
Ah ben la famille royale, enfin la dynastie de Joseon n'était pas tendre avec les catholiques.
Ça,
hein.
Oui.
Et beaucoup furent exécutés, comme notre Siméon Berneux Sartois.
Ah aussi.
Ou forcés à renier leur foi. Donc
on va voir, j'imagine,
vous parler de
tu
Siméon
ton
plus
suspense,
tard.
Là, ouais, voilà. J'entends bien.
Alors à la fin du 19e siècle, c'est le protestantisme qui est arrivé en Corée avec les Américains, bien sûr.
D'accord.
Et il a bénéficié d'un contexte plus favorable grâce à l'ouverture du pays aux influences étrangères. Mm-hmm. Puis ensuite, il y a eu l'occupation de la Corée par les Japonais entre 1910 et 1945.
Ah, et à ce moment-là, il est devenu quoi des chrétiens sur cette période?
Très bonne question, Didier.
Ah, mais...
Ça a été une période très dure pour les Coréens, on le sait, mais ça a été aussi un moment clé pour le christianisme. Mm-hmm. Alors, le Japon voulait évidemment imposer le shintoïsme,
je
ne l'oublions
surpris.
Pas, et éradiquer la culture coréenne.
Oui, ça en a déjà parlé.
Voilà, alors les chrétiens, notamment les protestants, ont alors joué un rôle important dans la résistance culturelle et spirituelle contre la domination japonaise.
D'accord.
Les églises étaient devenues des lieux de refuge et de solidarité pour tous les Coréens, et le christianisme a alors été associé aux valeurs de liberté et d'indépendance, ce qui le rendra très populaire.
Ce qui est noble, effectivement.
Voilà. Alors après la Seconde Guerre mondiale et la libération de la Corée, le pays a été divisé en deux zones en 1948, ne l'oublions pas non plus.
Bien sûr.
Alors en Corée du Nord, le gouvernement de Kim Il-sung a réprimé toutes les religions, toutes. Les églises ont donc été fermées, les chrétiens persécutés, emprisonnés ou exécutés.
Mm-hmm.
Beaucoup se sont alors réfugiés au sud, donc ça a augmenté le nombre de chrétiens encore.
Bien sûr.
Alors actuellement, les chrétiens nord-coréens pratiquent leur foi en secret au péril de leur vie. On estime qu'il y aurait entre 200 000 et 400 000 chrétiens clandestins en Corée du Nord.
Ah, tout de même.
Mais difficile de vérifier les chiffres, forcément.
Bien sûr, ça, c'est suffisamment verrouillé pour pas trop savoir.
Voilà. Et en Corée du Sud, au contraire, le christianisme et particulièrement le protestantisme ont progressé, car soutenu par l'État.
Très bien. Alors, on en est où aujourd'hui, s'il te plaît, Corinne?
Alors, à partir des années 60, la Corée du Sud va connaître un réveil religieux par la fondation des fameuses méga-churches à l'américaine, avec des prédicateurs charismatiques.
À l'américaine.
Okay. Et par les mouvements chrétiens de défense des droits de l'homme pendant la dictature militaire des années 1970-1980. Le christianisme est donc devenu encore un symbole de justice sociale pour beaucoup.
D'accord.
Et aujourd'hui, ça on l'avait déjà évoqué, il y a 30% de la population coréenne qui se déclare chrétienne.
C'est une forte communauté. Une forte communauté
pratiquante en plus.
Oui,
hein.
Oui.
Mais il faut garder à l'esprit que certaines méga churches, je ne sais pas comment on le dit en français, sont critiquées pour des scandales de corruption, ce qui affecte la réputation des églises dans leur ensemble.
Mmh.
Alors il y a aussi une concurrence spirituelle avec la remontée du bouddhisme et la recrudescence du chamanisme.
Ah oui, c'est vrai, on en a aussi parlé.
Oui.
Alors du coup, Corinne, maintenant, moi j'ai envie de savoir, par rapport à Siméon Berneux, ce Sartois devenu évêque de Séoul, tu as éveillé ma curiosité, je veux en savoir plus.
Ben oui, c'est vrai, quand moi j'ai appris ça, j'ai été tout ébahie. Alors Siméon Berneux, c'est une figure importante de l'histoire du christianisme en Corée.
Ouais.
Il est né en 1814 à Château-du-Loir et il est mort en 1866 à Séoul.
D'accord.
Et il avait fait ses études au petit séminaire du Grand Pressigné et au Grand Séminaire du Mans, avant de devenir prêtre en 1837. Alors en 1839, Siméon Berneux est entré aux missions étrangères de Paris, ce qu'on appelle les MEP, et il va partir du Havre le 12 février 1840 pour Macao.
D'accord.
Il ira au Vietnam, où il sera arrêté et condamné à mort,
parce qu'au
au Vietnam c'était comme en Chine. Hein.
D'accord.
Les chrétiens étaient quand même persécutés.
Mmh.
Mais c'est avec sursis. Il va être libéré en mars 1843.
D'accord.
À la suite de ça, Siméon Berneux va assurer d'autres missions avant d'arriver clandestinement en Corée en 1856. Alors je rappelle qu'à cette époque, la Corée était fermée aux étrangers, profondément confucianiste.
Oui, il avait la foi quand même. Hein.
Voilà, rendant la situation des chrétiens très difficile. Alors Siméon Berneux va apprendre le coréen et il va prendre le nom de Changgyong-il.
Oui.
Et son action sera très discrète, mais très visible. Et des milliers de personnes vont se convertir.
Ah oui.
Il sera ordonné évêque à Séoul en 1859 et va se consacrer à l'organisation de la communauté chrétienne et à la formation des prêtres coréens, malgré les risques.
Bien sûr.
Et à cette époque-là, donc un petit peu après, 1866, il y avait déjà 23 000 chrétiens en Corée.
D'accord.
Et c'est à la suite de tensions entre la Corée et les puissances occidentales que la persécution sera décidée. Mmh. Et c'est, comme tout à l'heure je le disais, la perte des valeurs confucéennes qui a tout déclenché. Et Simon Berneux sera alors arrêté le 23 février 1866, torturé et décapité le 8 mars. Le 8 mars de la même année, 1866. Alors son martyr et celui de plusieurs autres missionnaires et de milliers de chrétiens coréens marquera l'une des périodes les plus sombres du christianisme en Corée. Il a ensuite été enterré sur place dans un camp militaire, puis son corps a été transféré dans un séminaire. Et il faut savoir, et c'est important de le savoir, pour ceux qui visitent la Corée surtout, il repose aujourd'hui dans la cathédrale de Séoul. Tombeau est au cœur de la cathédrale de Séoul.
Donc on peut, quand on visite la cathédrale,
on peut aller saluer Siméon Berneux. Voilà.
Quand même.
Il a été béatifié en 68 par le pape Paul VI et canonisé en 84 par Jean-Paul II avec 102 autres martyrs coréens. Alors aujourd'hui, en Corée et à Château du Loir, Siméon Berneux est considéré comme un symbole de courage, de foi et de résilience. Et voilà pourquoi il y a une congrégation de prêtres coréens à Château du Loir. Elle s'appelle la Congrégation des Bienheureux Martyrs de Corée de Saint Siméon François Berneux.
Eh ben, voilà.
Incroyable.
Ah là, j'avoue que je suis épaté.
Donc, moi, je pense qu'un petit chant de Noël nous fera du bien. Et c'est Roy Kim qu'on écoute maintenant.
C'est ça, exactement.
흔하디 흔했던 가난한 마음에 따뜻한 향기가 피어오르죠 수줍어 말 못했었던 내 안에 숨겨왔었던 Christmas Day. It's Christmas Day. 아무렇지 않았던 집 앞에 벤치가 괜히 더 내 맘을 외롭게 하죠. It's Christmas Day. 그리 울 줄 몰랐던 그대의 온기가 다시 또 내 맘을 시리게 하죠 수줍어 말 못했었던 내 안에 숨겨왔었던
C'était Roy Kim. It's a Christmas Day.
Alors, on y est, là. Noël.
Oui, on est à Noël et on est en Corée.
On a bien préparé les auditeurs. Là.
Oui, hein. Il faut se préparer.
C'est ça
fait du bien quand même de penser à Noël.
C'est ça.
Alors, Didier, on se fait pas, on se fait beaucoup de cadeaux en Asie, mais pas n'importe quand et pas forcément pour Noël. Alors, raconte-nous un petit peu nos connaissances à jour
tout
avec
à fait,
tout ça.
Voilà. Alors, bon. Les traditions liées aux cadeaux en Asie sont vraiment ancrées dans les cultures respectives de chaque pays, en fait, hein, et témoignent de leurs valeurs de respect, de gratitude, et contribuent à l'harmonie sociale. Pardon. Noël est une fête typiquement occidentale, on est bien d'accord là-dessus, mais elle a été adoptée en Chine, en Corée, au Japon depuis plusieurs décennies. C'est la symbolique de Noël, les types de cadeaux échangés, qui varient en fait en fonction des cultures. Ah, il faut tout d'abord, faut d'abord connaître des codes. Ça, c'est clair. Avant de faire son shopping, si vous allez là-bas, soyons clairs. Dans les trois pays, de même qu'au Vietnam, on donne et on reçoit des cadeaux avec les deux mains.
Oui, c'est très important.
S'il vous plaît.
Ça.
Et on ne l'ouvrira pas tout de suite pour montrer que l'on accorde plus d'importance à la personne qui l'a offert qu'au cadeau en lui-même.
Et ça, il faut le savoir
on
parce que ça peut
pas.
Surprendre.
Oui, c'est vrai.
Si on offre un cadeau à un Asiatique et qu'il ne l'ouvre pas,
oui, on se dit, mince,
s'il
n'aime pas, il n'a pas envie. Ben si, non, c'est du respect.
C'est du respect, voilà. Tout à fait.
Et bien sûr, il y a des objets qu'il ne faut surtout pas offrir. on l'avait abordé hein, dans le 10e épisode d'Asialogiste.
Oui, c'est vrai.
Donc, on ne va pas tout reprendre, mais alors évitons, donc, comme on l'avait déjà dit, les chaussures, les montres, les horloges, les couteaux, ça c'est aussi chez nous, les parapluies, et n'achetons pas de produits Made in China pour les Chinois, s'il vous plaît.
Bah oui, ça c'est un mauvais goût. Là,
en même temps, si on peut ne pas trop en acheter en France aussi, pour Noël, ça peut être bien aussi. Hein,
oui.
Je sais pas.
Oui,
hein,
oui,
voilà.
Tu as raison, Titi. Oui.
Donc,
alors, que s'offrent donc les Chinois pour Noël ?
Alors, Noël, c'est donc pas une fête traditionnelle chinoise, vous l'avez bien compris, mais elle est populaire surtout dans les grandes villes. Elle est considérée comme un événement commercial et festif, sans dimension religieuse, on est bien d'accord.
Oui.
Les cadeaux échangés sont généralement simples, souvent symboliques ou liés à la mode. Les cadeaux doivent symboliser la paix, la chance, la prospérité et le bonheur, comme les pommes, les oranges ou les mandarines.
Oui, c'est vraiment très simple.
Voilà,
comme cadeau.
On offre des cadeaux emballés dans du rouge,
ah ben
bien sûr, couleur porte-bonheur, et jamais avec du blanc ou du noir, s'il vous plaît. On se fait des petits cadeaux amusants ou mignons, inspirés de la culture pop ou des chocolats, des friandises. Les vrais cadeaux, eux, seront offerts à l'occasion du Nouvel An chinois, bien sûr.
Pas compliqué, les Chinois.
Eh oui, non.
Alors, y a-t-il d'autres particularités dans la tradition des cadeaux en Chine ?
Alors, comme au Japon et en Corée, en Chine, le cadeau est omniprésent dans la vie quotidienne. Il n'est pas réservé qu'à Noël ou au Nouvel An. Une simple visite, une rencontre professionnelle le justifie. Contrairement à nous, il est bienvenu de laisser l'étiquette du prix.
Ah oui, ça c'est pareil.
Celle-ci,
ça
signifie la valeur.
Ah oui,
mais nous, c'est vrai que nous, surtout, ne pas oublier.
Ouais.
L'intérêt, bah, en fait, c'est qu'on accorde à la relation, en fait, ça marque ça. Donc, il ne faut pas faire trop et puis respecter les codes, s'il vous plaît. Petite anecdote amusante pour nous, mais qui aurait pu être source d'un grave incident diplomatique. En 1989, George Bush a offert au Premier ministre chinois Xi Jinping une paire de Santiago. Jusque-là, c'était une bonne idée, sauf qu'on vous l'a dit, les chaussures. Non, les Santiago, c'est les chaussures. Puis avec les drapeaux américains et chinois brodés dessus, ah, ça, ils
ah,
avaient
ça,
bien fait les choses.
C'était très mauvais goût, quand
mais,
même.
Oui, alors ça, oui, je ne suis pas sûr que je les porterais. Les chaussures symbolisent la fuite ou le rejet, on l'a déjà dit. On imagine la gêne du ministre chinois. Autre chose à savoir, on n'offre aucun objet qui a trait à l'intimité, s'il vous plaît. C'est très mauvais goût. En Chine.
Alors, et quel cadeau se fait-on en Corée, Didier ?
Alors, pour la Corée, alors, ils sont bien différents, mais tout aussi importants. En Corée du Sud, Noël est une fête reconnue officiellement grâce à une importante communauté chrétienne,
oui,
comme tu viens
de
l'expliquer.
Voilà,
forcément, ça a plus sa place. Noël est aussi devenue une fête romantique, comme la Saint-Valentin. Les cadeaux sont toujours bien emballés et échangés entre couples ou dans la famille proche et pour les enfants. Alors, mais comme en Chine, c'est au Nouvel An que l'on se fera les plus beaux cadeaux. Alors, on s'offre toutes sortes de choses en Corée, hein, comme en Occident.
Oui.
Mais il y a des particularités pour les choix des cadeaux qui dépendra du statut social, de l'âge, du sexe, du
destinataire. Mais ça, c'est très important
ouais,
de savoir.
Il y a des codes, quoi. Il faut savoir qu'il est poli de refuser modestement un cadeau une, deux fois avant de l'accepter, ce qui montre de l'humilité.
Oui, c'est encore le
voilà,
système
toujours.
De valeur, toujours.
Oui, c'est ça. On peut offrir de la viande sous vide en Corée. Et oui, des fruits aussi, car ils coûtent cher. Et pour les fêtes, on offre aussi des coffrets de cadeaux tout prêts, dont des boîtes de spam.
Et dont
voilà.
On parlera
donc,
très la,
voilà,
semaine
la semaine prochaine. On parle
pour
du
Noël,
spam.
On parle du spam.
Ça, je vous invite à être là, ça vaut son pesant de spam. On parlera en détail de ça. Et le spam étant du porc en conserve, on n'en dira pas plus. Puis c'est aussi
donc
apprécié.
C'est la semaine prochaine.
Voilà,
spam.
Sont aussi appréciés donc les algues, les poissons séchés, les condiments pour la cuisine. Comme aussi de l'huile d'olive. En
fait, ils apprécient beaucoup l'huile
mais
d'olive, les Coréens.
Mais c'était des produits de luxe quand la Corée était pauvre. En fait, c'est resté une tradition parce que ça a survécu à ça.
Bah, ils sont simples. Est-ce qu'il nous reste du temps, Didier ?
Eh bien, oui, un peu quand
oui.
même, dit.
Alors, on continue ?
Oui, hein ? On continue.
Alors, est-ce que... Bon, allez, moi, je trouve que les Coréens, ils sont quand même forts en cadeaux, mais quels sont leurs cadeaux préférés ?
Alors, en Corée, rien n'est plus important que la santé. Donc, les cadeaux les plus prisés sont ceux qui touchent à ce domaine-là. On offre du ginseng et des dérivés de vitamines, des compléments alimentaires, des plantes médicinales. Et plus le goût est amer, plus les vertus sont grandes. Et le cadeau est apprécié.
Ah ben, ça, c'est
ça serait pas pour
aussi.
Moi, je vous le dis tout de suite. Chers auditeurs, ne m'offrez pas ça. On adapte toujours le cadeau à la personne. Puis là non plus, attention. Et pour cela, peut-être, ça peut être choquant pour nous. Hein. Ou de mauvais goût, en fait, chez nous. Mais en effet, les Coréens n'ont pas peur d'être intrusifs. Au contraire, par exemple, on peut offrir des infusions pour la ménopause à une femme de 50 ans et plus.
J'espère qu'on m'en offrira
jamais.
Non, je n'avais
pas prévu ça pour Noël. Des boissons, je sais que ça va être compliqué. Sinon, les boissons spéciales contre les problèmes articulaires, des chocolats sans sucre pour les diabétiques. Bon, ça va encore. Ça la témoigne de l'empathie pour la personne.
Hein. Mais on voit ça dans les séries, hein. Les futurs gendres ou...
Ouais.
Qui offrent ça à leur future belle-maman.
Ben, je suis
alors,
pas sûr que
au Japon, Didier.
Oui. Alors, Noël au Japon.
Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Si, si, il nous reste un petit peu de temps.
Alors, au Japon.
Et c'est une fête purement commerciale et festive. Et vue comme une occasion pour passer du temps ensemble pour les couples, moment de s'offrir des cadeaux romantiques comme des bijoux, des vêtements de marque autour d'eux. Un Christmas cake.
Ah oui, le gâteau aux fraises.
Le gâteau aux fraises et à la crème chantilly. Et bien sûr, être allé manger, on a déjà parlé, du poulet frit au KFC. Je vous laisse regarder les podcasts pour en savoir plus. Les enfants, eux, reçoivent souvent des jouets, des peluches, quoi. Mais il y a quelque chose de très particulier au Japon pour la tradition des cadeaux. Il y a deux saisons pour en offrir et en recevoir. Et ceci pour témoigner de la reconnaissance. Il y a la saison du Shugwen en été pour les voisins, la famille, l'éloigné, les supérieurs hiérarchiques, et celle du Sheibo pour les proches et les aînés de la famille à la fin de l'année.
Et pour ces occasions, c'est quoi les cadeaux les plus populaires?
Alors, ils sont alimentaires. Hein. Les plus prisés sont la bière, le café, les fruits.
Ah, c'est pas compliqué.
Ah, les fruits, c'est cher aussi. Hein. Donc, les gâteaux, les spécialités régionales, les chèques cadeaux, la tendance des produits diététiques, comme en Corée, est en progression. Et puis, comme en Corée et en Chine, la valeur du cadeau varie selon l'âge, la relation, enfin, les mêmes codes. Quoi. Alors, le must des cadeaux, pardon, et le plus typique du Japon, c'est le luxueux Musk Melon, spécialement produit dans le but d'être offert. Et en fait, ce Musk Melon, alors vous regarderez sur Internet, mais c'est affolant le prix qu'on peut mettre
sur
un melon.
C'est entre 80 et
200
euros.
C'est jusqu'à 20 000 yens, j'ai vu.
Oui, c'est alors, ça, c'est très cher.
C'est énorme. C'est,
je pense que ça correspond...
C'est difficilement compréhensible,
oui,
quand même.
Oui, c'est difficilement... Surtout que ça semble un melon très ordinaire. On a du temps encore, Didier, très peu.
Non,
hein.
Cette fois,
c'est fini.
C'est fini,
et
oui.
Bon. Bon. Après ce petit panorama des cadeaux, ça vous aura peut-être donné des idées.
Donc on est bien
amis.
D'accord, pas d'infusion contre la ménopause, ni de melon pour nous si vous voulez nous envoyer des cadeaux.
C'est vrai, plutôt du chocolat.
C'est ça.
Bon, Asialogie, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30. Et bien sûr en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain absolument. On vous parle du spam, vous verrez, c'est très amusant.
C'est assez
et
amusant.
Et donc jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa 107.3 FM. Salut, à la semaine prochaine.
À bientôt, belle semaine.